France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Ce 20 juin marque la journée mondiale des réfugiés, initiée par les Nations Unies. Les chiffres sont colossaux. Plus de 112 millions de personnes dans le monde ont été déplacées de force par les persécutions ou les conflits. L'actualité nous laisse à penser que ce chiffre augmente chaque jour. Et pourtant, cette journée des réfugiés ne fait pas les gros titres cette année. La semaine dernière, 60 hommes, femmes et enfants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. 60 de plus. Un chiffre. Jean-Baptiste Bonnet est allé voir derrière ce chiffre. Il a passé des semaines à bord de l'Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée. Son documentaire Save Our Souls est visible ce soir dans une centaine de salles de cinéma. Et Jean-Baptiste Bonnet est dans les midis aujourd'hui. Bonjour Jean-Baptiste Bonnet.
Bonjour.
Et bienvenue dans les midis de culture. La question des réfugiés est passée clairement sous les radars en ce moment. C'est l'actualité qui veut ça sans doute. Mais en préparant votre documentaire, avez-vous eu le sentiment que c'est un sujet qui peut encore mobiliser ?
Je ne crois pas. C'est-à-dire que j'ai produit ce documentaire et je l'ai réalisé. La production a mis environ 2 ou 3 ans. Et très clairement, il m'a été très régulièrement retourné que cette question, on l'avait déjà traitée et qu'elle n'intéressait plus le public.
On l'avait déjà traitée, une fois suffisait, quoi.
Exactement. Mais de fait, c'est la même histoire qui se répète depuis plus de 10 ans. Et c'était aussi mon point de départ. J'ai toujours dit que moi, j'arrivais après l'actualité et que j'étais pas là pour révéler quoi que ce soit.
Mmh. Alors, ce film, le documentaire Save Our Soul, sera projeté ce soir, je l'ai dit, dans plus d'une centaine de salles de cinéma, en France, en Belgique et en Suisse. Et il sera suivi d'un débat qui est retransmis en direct, auquel vous participez. Il est transmis en direct depuis le cinéma Le Méliès à Montreuil. Vous avez tourné 6 semaines à bord de l'Ocean Viking, le bateau de l'association de sauvetage SOS Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà les missions de ce bateau ?
Alors, ce bateau navigue dans les eaux internationales au large de la Libye, dans la zone de sauvetage. Et donc, sa mission est tout simplement d'appliquer le droit maritime international, c'est-à-dire de porter assistance à des embarcations en détresse, puisque ce droit maritime n'est plus appliqué par les États européens par un certain nombre de bateaux, notamment des bateaux commerciaux qui naviguent dans la zone.
Mmh. On n'y tourne pas, j'imagine, comme ça, sur ce bateau, sur l'Ocean Viking. Quels ont été, comment avez-vous approché cette équipe-là ?
Alors, en effet, on n'y tourne pas comme ça. SOS Méditerranée m'a imposé une condition simple, c'était que je monte à bord en ayant acquis un diffuseur. C'est-à-dire que je devais fournir une garantie de diffusion du film, ce qui est compréhensible.
Mmh. Pour pas qu'on demande à des gens qui sont filmés de s'investir à perte, en fait. Hein,
C'est ça, et puis surtout, moi, en tant que réalisateur, documentariste, je prends une place sur le bateau n'est pas très grand. Il y a une place, voire parfois deux, qui sont réservées à des membres extérieurs. Mmh. Et il n'est pas question de prendre cette place pour rien. Mmh. Donc voilà, France Télévisions s'est engagée à mes côtés et ça a rendu le film possible.
Et c'est pour ça que vous tournez seul, c'est-à-dire image, son, vous faites tout seul, sur ce tournage en tout cas.
Absolument, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'était pas possible d'embarquer avec un ingénieur du son. Et donc pour la première fois, j'ai fait à la fois l'image et le son. Oui.
Et qu'est-ce que ça implique, ça, comme tournage ? Ça doit être très différent, j'imagine, d'être seul à tout faire comme ça. On arrive à être encore présent. Vraiment, c'est important sur ce film d'être présent, de toute façon.
Alors oui, c'est une grande contrainte, mais je me suis absolument appuyé sur cette contrainte pendant tout le tournage. Alors, j'ai une formation d'image, de chef opérateur, donc ça me posait pas de problème. En revanche, la question du son est très importante. Et j'avais donc un micro sur la caméra, et c'est tout. Mmh. Et donc ça implique notamment de filmer relativement près des personnes pour qu'on puisse entendre ce qu'ils ou elles ont à dire. Donc c'est une contrainte de cadre importante, ça implique d'utiliser par exemple uniquement un objectif de 35 mm, voire 24. Mmh. On ne peut pas rester loin. Donc je suis vraiment en permanence intégré à ce que je filme, et je crois que cette contrainte fait beaucoup pour le film.
Alors en parlant de contraintes choisies ou imposées, on va dire, on ne quitte jamais l'eau. On est sur la mer du début à la fin, alors parfois sur le Ocean Viking, parfois sur les Zodiacs de sauvetage quand ils sortent. Pourquoi ce choix-là de nous garder comme ça sur l'eau ?
Alors en effet, c'était un choix dès le départ, c'est-à-dire que le film devait être un huis clos maritime, et j'ai toujours dit on ne posera pas pied à terre pendant le film. Parce que justement, toute l'histoire se passe sur le bateau, parce que le bateau est une forme d'utopie. C'est là où, pour la première fois, la sécurité, la relation avec les rescapés est possible. C'est la première fois, je veux dire, que les rescapés sont en sécurité dans leur très long parcours d'exil. Ensuite, en Europe, l'histoire sera différente. Et je voulais vraiment me circonscrire à cet espace-là.
Qui est effectivement un espace de repos. On sent les visages qui se détendent. On va y venir parce que c'est un film qui est presque coupé en deux. Il y a d'abord l'attente. Vous êtes sur le bateau avec l'équipage. Ils n'ont pas encore procédé à un sauvetage. Et il y a ces plans qui sont assez longs, qui sont assez posés. Très peu de mouvements de caméra. Des plans fixes comme ça. Et cette attente. Pourquoi vous avez attaché autant d'attention justement à cette attente de l'équipage qui scrute la mer comme ça?
Parce que le temps en mer est un temps qui est très long. Le temps de la recherche est un temps qui est très long. Je voulais vraiment pouvoir donner la sensation de ce temps. C'est ce que permet le documentaire, c'est de donner la sensation du temps. Donc, en effet, comme vous le dites, sur le bateau, il y a des cartes d'observation à la jumelle, c'est des cartes de 45 minutes. Scruter l'horizon qui scintille au soleil pendant 45 minutes à la jumelle, c'est très long. J'ai fait quelques-uns de ces quarts-là pour relayer les camarades sur le bateau, et c'est vraiment très très long, il faut savoir faire. Donc, bon, je rassure les spectateurs, il n'y a pas des plans de 45 minutes d'observation à la jumelle, mais il s'agit quand même de donner cette sensation du temps. De la même façon que la séquence de sauvetage, on en parlera peut-être ensuite, est longue aussi.
Oui, tout à fait. Pour revenir juste sur cette première partie où on est tous dans l'attente, évidemment, mais il n'est pas question de créer un suspense. Hein. C'est un film qui respecte le temps de l'équipage avec lequel vous êtes. Il y a donc ce temps et il y a ce silence aussi, qui est très, très impressionnant sur ce bateau. Alors, je me suis demandé, est-ce que vous avez évacué les discussions de l'équipage qui doit bien se parler pour garder ce silence-là, ou c'est un silence qui existe ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que le temps du travail est un temps très calme, très concentré. Ce temps d'observation, justement, on ne parle pas. D'ailleurs, c'est interdit par le règlement du bord. On ne doit pas être distrait par les collègues qui passent. On doit vraiment être avec l'horizon et c'est tout. Ensuite, bien sûr, on vit à bord, on discute, il y a plein de moments de vie. Mais c'était aussi une des contraintes, et c'est important qu'il y en ait. Moi, je n'avais pas accès, enfin, ma caméra n'avait pas accès au lieu de vie à bord. C'est-à-dire, d'accord, on ne va pas filmer dans les cabines, on ne va pas filmer dans les salles de repos de l'équipage. C'est vraiment important.
Et l'idée, alors justement, cette interdiction qui émane donc de l'équipage de l'Ocean Viking, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'être mis au premier plan?
Non, c'est parce qu'en fait, sur le bateau, enfin, le bateau est un terrain documentaire dont on ne sort pas, dont moi je ne sors pas en tant que réalisateur. Donc c'est important qu'il y ait des limites, c'est-à-dire que quand on fait un film, on va filmer les gens, et puis le soir on rentre, et puis les gens sont tranquilles, ils peuvent souffler. Ben là, c'est exactement pareil. Donc en fait, ces limites sont posées par SOS Méditerranée.
Il y a donc le silence, le temps, et puis sur cette première partie d'attente, là, c'est un hasard peut-être, mais il fait très beau. Le soleil brille, vous l'avez dit, scintille, il y a quelque chose. La mer est magnifique à ce moment-là. Et il peut y avoir la tentation ou le danger de cette beauté-là, de cette mer si belle dont on ignore les. Du coup, on peut ignorer les dangers.
Alors oui, c'est une tentation. C'est pas qu'une tentation, c'est une intention, justement, que cette mer soit belle au début, mais belle et dangereuse. C'est-à-dire que pour nous, Européens, mais pas que, pour tout le bassin méditerranéen, pardon. La Méditerranée est une mythologie, c'est une mer qui est magnifique. Et c'est aussi la route migratoire la plus dangereuse du monde, c'est aussi un cimetière. Donc il fallait que ces plans disent à la fois cette beauté et ce danger. Je crois que c'est un peu ce que raconte ce premier plan en plongée, où la mer a cette énorme masse d'eau presque noire qui monte et qui descend. Et puis le plan suivant, en effet, c'est un horizon qui scintille au soleil.
Alors arrive ensuite le sauvetage, on va y venir bien sûr. Un bateau pneumatique au large d'une plateforme pétrolière libyenne, 92 hommes et femmes, et puis tout s'accélère. Avant d'évoquer ce moment et la prise en charge des naufragés qui est très organisé, on va le voir, par les équipes de l'Ocean Viking, je voudrais qu'on écoute le témoignage de Thérèse, qui a été pilote sur un des bateaux de SOS Méditerranée.
Tous ces entraînements, tous ces briefings, toutes ces explications, c'est aussi une manière de se mettre psychologiquement en état d'être efficace au moment où il va falloir l'être. Parce que finalement, c'est des situations qui sont assez terrible. On peut avoir en face de nous des bateaux qui vont être sur le point de se retourner, des gens qui sont dans des états terribles à l'intérieur, qui ont été en mer longtemps, qui sont malades à cause de la mer, à cause des mauvais traitements qu'ils ont eus, à cause du fioul. Donc on est face à beaucoup de détresse. Et il faut être capable d'être efficace, opérationnel, et de ne pas se laisser submerger par ses émotions sur le moment ou par des retours d'émotions de choses passées. Je me souviens du premier sauvetage que j'ai fait. Là, c'était il y a 2 ans, à peu près à la même époque, là, en décembre. Et je m'obligeais à pas regarder les visages des gens. Je regardais les mains, les pieds, je regardais le bateau, je regardais le leader qui était à l'avant, je regardais la mer, mais je regardais pas les visages. Et même quand les gens étaient embarqués à bord de mon bateau, en faisant route vers le bateau mère, vers le Sun Viking, je les regardais pas parce que j'avais peur d'être trop ému, quoi. Et pas que ce soit trop, que ce soit ingérable de voir ces visages qui disent juste je veux pas mourir, aidez-moi.
Voilà, Thérèse, pilote d'un des bateaux de SOS Méditerranée, Jean-Baptiste Bonnet. Est-ce que vous appréhendiez votre propre réaction à la possible souffrance humaine, à la détresse que vous vous apprêtiez à filmer avant le premier sauvetage?
Il n'y a pas un seul sauvetage qui est identique à l'autre. J'appréhendais, mais comme tous les sauveteurs, sauveteuses, d'être confronté à un sauvetage dramatique, parce qu'il y en a. En l'occurrence, le sauvetage que j'ai filmé est un sauvetage qui s'est bien passé. Il n'y avait pas de blessés graves, les rescapés ont été très à l'écoute des consignes, donc il n'y a eu aucun mouvement de panique, ce qui peut aussi occasionner des drames. Donc je n'ai, moi, pas été confronté à ce genre de choses, et je l'appréhendais pas avant spécialement, non.
Vous filmez donc ce moment très important du sauvetage, et c'est le moment où l'équipage de l'Ocean Viking, en faisant monter les rescapés qui partent de leur petite embarcation qui est sur le point, enfin, plutôt grande d'ailleurs, mais qui est sur le point de se dégonfler complètement, ils les font monter à bord de leur Zodiac, un par un. Et là, ils sont comptés, un par un. Et c'est un moment assez long, et on a vraiment l'impression que soudain, l'équipe de l'Ocean Viking leur rend une forme de statut d'individu, de personne, en les comptant. C'est ça que j'ai ressenti, moi, en regardant cette séquence.
Oui, avec le monteur du film, François Sculier, on a vraiment voulu garder le temps de cette séquence, parce que c'est un numéro, c'est une vie.
Voilà.
Donc en fait, c'est ces vies qui rentrent sur le bateau, c'est ces hommes et ces femmes qui reviennent à la vie en entrant sur le canot de sauvetage. Et il y a quelques ellipses, on en parlera peut-être plus tard, c'est que certains, a posteriori, m'ont dit qu'ils ne voulaient pas figurer dans le film. Donc en fait, ils ont été coupés, cette séquence. Donc il y a quelques ellipses.
Ah, c'est pour ça les ellipses, sinon vous l'auriez laissé.
Non, parce qu'il y avait 92 rescapés, on n'aurait pas mis les 92. Mais en tout cas, on en a mis une bonne trentaine.
Ouais. Ouais. Et ce temps long est important. Pour revenir là, puisque vous l'évoquez vous-même, vous avez eu beaucoup de refus de personnes d'être filmées?
Non, très peu. J'en ai eu moins que de personnes qui sont venues me voir en me disant qu'elles voulaient être filmées.
Qu'elles voulaient parler.
Et raconter.
Ouais.
Raconter.
Ça vous a surpris, ça, ou vous attendiez
Alors, moi, j'avais eu une très grande anticipation, une très grande attention, justement, à cette question du consentement, qui est très importante en documentaire, mais qui était encore plus importante, peut-être, sur ce film. Et c'est vrai que je n'avais pas anticiper le fait que la caméra pourrait être justement vectrice de libération de parole.
Et c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire que quelque part, ils vous ont utilisé aussi.
Oui, mais c'est là où, en fait, quand un documentaire s'enclenche, quand le tournage d'un documentaire s'enclenche, c'est quand les personnes qu'on filme s'emparent aussi du documentaire en train de se faire, pour le faire leur. Et c'est vraiment important, ce moment-là.
Et alors, là, à ce moment-là, c'est quand, une fois qu'ils sont sur place, sur le bateau, la première des choses, c'est manger, boire, dormir et se laver. C'est des choses très, très simples qui sont mises en place tout de suite. Et puis vient ensuite, là, le temps de la parole, de l'histoire qu'on raconte. Comment ça se crée? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont envie de parler?
Ça, il faudrait leur poser la question. Mmh. Et ce soir, à la projection à Montreuil, Moussoni, qui a été rescapé de l'Océan de Viking, sera là et pourra peut-être y répondre mieux que moi. Mais je pense que c'est un effet assez naturel. C'est-à-dire qu'on vit tous ensemble sur ce bateau pendant plusieurs jours, 5-6 jours. Et petit à petit, la vie revient. Donc en fait, on vit ensemble comme sur ce pont du bateau, qui est pas très grand, hein, mm-hmm. mais comme une petite place de village. Et en fait, on se croise, on se parle. De quoi tu as besoin? Est-ce que ça va? On échange des banalités. Et puis tout d'un coup, il y a des grandes histoires qui émergent comme ça. Parce que c'est le bateau et le premier endroit où cette parole peut avoir lieu. Souvent, dans un parcours d'exil qui est très long. Et elle peut avoir lieu et être écoutée sans qu'il y ait un enjeu derrière, c'est-à-dire sans qu'il y ait un enjeu notamment d'asile, sans qu'il y ait un enjeu administratif. Et ça, c'est très important parce que ces histoires que racontent certains rescapés, ils vont les raconter encore beaucoup en Europe. C'est quelque chose qu'on voit très bien dans l'histoire de Souleymane, le film de Boris Lochkine. Les récits de vie vont avoir un enjeu administratif énorme. Mmh. Mais là, il n'est pas question de ça. Il est question de partager un moment de vie et voilà, c'est ce qui a lieu.
Et d'ailleurs, l'équipage le dit régulièrement. On n'est pas la police, on n'est pas lié au droit européen. Enfin, on le respecte, mais on n'est pas lié par contrat avec eux. Et puis, il y a de l'humour aussi. C'est assez surprenant.
Mais beaucoup en fait, et il y a beaucoup de parce que l'humour c'est la vie, c'est-à-dire que il faut que cette vie revienne. Et puis on parle quand même là de 92 personnes qui peu à peu se rendent compte qu'elles ont échappé à la mort, qui ont vu vraiment la mort de très près, et c'est une bonne raison pour être joyeux à un moment.
D'ailleurs dans le film ça fonctionne par vagues, si j'ose dire. C'est que on les voit sourire quand ils sont sauvés, hein, en sortant de leur bateau pour aller sur le Zodiac de SOS Méditerranée. On sent le soulagement. Ils arrivent sur le bateau, on les sent soulagés. Et puis le lendemain, les visages sont déjà plus les mêmes. On n'a plus le sourire. Il a un peu disparu. Hein.
Oui, il y a un grand abattement le deuxième jour parce qu'en fait, il y a énormément de fatigue. Il y a quelque chose qui retombe, qui se relâche. Alors encore une fois, je veux pas que ma parole se substitue à la leur, mais il y a aussi peut-être la prise de conscience que la route est pas terminée. Il y a des douleurs qui reviennent.
Oui, hein. Le corps parle à ce moment-là.
Le corps parle, le corps vraiment, il y a des corps qui s'effondrent. Hein. Je crois qu'on le voit dans la consultation médicale qui est filmée. Il y a un rescapé qui était partant pour filmer sa consultation médicale. Il est vraiment, en fait, il a pas de, il est pas malade, mais le médecin lui dit, tu es très fatigué, il faut que tu te reposes.
Ouais, il est déshydraté, il n'en peut plus. Et c'est intéressant ce que vous disiez, je ne veux pas me substituer, et c'est toute la question de votre travail. À quelle place vous vous êtes mis, Jean-Baptiste ?
Alors, ce qui m'intéressait au tout départ, c'était vraiment de pouvoir filmer la relation qui se noue dans ce temps court entre les rescapés et les sauveteurs. Et ma caméra était la troisième pointe de ce triangle, en fait. Et être à cet endroit de l'écoute, à cet endroit où la parole circule. Et comme je vous disais au début, je suis souvent assez près des gens que je filme. Donc en fait, j'étais là avec une caméra entre souvent deux personnes, trois personnes, dix personnes qui discutent, qui échangent. Et la caméra écoute, en fait.
Et vous avez fait beaucoup de choix de montage, vous aviez beaucoup de rush ou
Pas tant, je filme pas énormément.
C'est ce que je me suis dit, j'ai l'impression que vous ne deviez pas filmer tant que ça, en fait.
Non, j'avais une trentaine d'heures de rush, ce qui est assez peu. Et en tout cas, avec François, le monteur du film, on n'a pas coupé de témoignages. On n'a pas coupé de rescapés qui, vraiment, à un moment, ont donné leur parole, littéralement. On a évidemment coupé dans les témoignages, parce que j'ai filmé des séquences pendant une heure et demie où ces histoires sont longues, il y a beaucoup de détails, il y a parfois des choses qui se répètent ou qui peuvent être mal comprise, parce qu'il y a la question de la langue aussi qui est très importante dans le film. Donc on a essayé de garder, de respecter au mieux cette parole donnée, en fait.
Ça, c'est le contrat. On ne filme pas quelqu'un si c'est pour le mettre à la poubelle, quelque part. Enfin, j'ose dire, hein, c'est,
on ne sait jamais, ça. Ouais. Ouais. C'est assez rare qu'on coupe personne comme ça. Je suis content qu'on y soit arrivé.
Vous montrez, bien sûr, donc, des instants assez poignants, qui sont tragiques, des confessions, des histoires absolument abominables. Mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'il n'y a presque pas de tension, presque pas de conflit. Les choses se passent assez calmement. Je me suis demandé si c'était une volonté de votre part de les mettre de côté ou si effectivement ça se passe comme ça.
Vous voulez dire pas de conflit à bord ?
Oui, à bord. Il y a quelque chose qui est assez smooth, on va dire.
Oui, alors moi j'ai pas été...
Vous n'êtes pas allé les chercher.
Ma caméra n'est pas allée chercher ce genre de choses. Vous avez 92 personnes, plus 30 personnes de l'équipage qui vivent ensemble sur un espace restant. Bien sûr qu'il y a des conflits, mais qui sont de l'ordre du conflit de voisinage. Hein. Mmh. Bah, rien de plus. Ouais.
On ne voit pas les femmes. Il y a des femmes sur le bateau, on ne les voit pas à l'image. Après, une fois, elles sont sur le bateau sauvé. Et après, une fois sur l'Ocean Viking, on ne les voit plus.
Alors ça, c'est important d'en parler. En effet, sur ces 92 rescapés, il y avait 9 femmes, ce qui est assez peu. Il ne faut pas en tirer une conclusion statistique. Ces 9 femmes ont fait le choix, pendant tous les jours de traversée, de ne pour ainsi dire pas quitter le Woman Shelter sur le bateau. Le Woman Shelter, c'est un abri qui leur est réservé, où les hommes n'ont pas le droit d'entrer, qui est réservé aux femmes et aux enfants. Moi, j'ai pas du tout cherché à forcer cette réserve. Elles avaient envie d'être ensemble, elles avaient envie d'être en retrait des espaces publics du bateau. Elles avaient certainement des bonnes raisons pour ça. C'est quand même l'occasion de rappeler que presque 100% des femmes qui passent par la Libye ont été violées ou ont subi des violences sexuelles. C'est un chiffre, on ne peut pas se représenter ce que ça veut dire. Mmh.
Voilà. Les ONG de sauvetage en mer ont secouru plus de 175 000 migrants en Méditerranée en 10 ans. Plus de 20 800, dont 3 500 enfants, sont décédés ou ont disparu en Méditerranée centrale, d'après les Nations Unies. Mais les ONG disent que les chiffres sont bien plus élevés, bien plus importants. Et ce, dans un contexte, évidemment, où l'Union européenne durcit sa politique d'accueil. Je vous propose d'écouter Najat Vallaud-Belkacem, présidente de France Terre d'Asile. Elle était le 21 mai dernier chez nos confrères de RFI.
Il fut un temps où l'Europe avait des ambitions humanistes en réalité, des ambitions quant à son rôle sur la scène internationale. Mais depuis une quinzaine d'années, et notamment au moment de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés syriens, en 2015, on a vu une Europe qui se resserre de plus en plus, et qui a laissé mourir en Méditerranée quand même 40 000 personnes, avec des trajets rendus de plus en plus mortels, avec des tentations d'externaliser de plus en plus les demandeurs d'asile, de les refouler, d'abord à ses frontières, avec les hotspots, les centres fermés, qui sont des véritables détentions, prisons en réalité, en Grèce notamment, ou dans d'autres pays à la frontière européenne. Ensuite, même plus loin que les pays de l'Union européenne, puisqu'on a demandé, par des pactes qu'on a signés contre monnaie sonnante et trébuchante, à des pays comme la Turquie, comme la Libye, comme la Tunisie, de retenir les demandeurs d'asile loin de nos regards et avec tous les moyens possibles. Et aujourd'hui même, j'écoutais vos informations, vous évoquiez l'Algérie, qui, comme la Tunisie, n'hésite pas à repousser vers le désert sans une bouteille d'eau des demandeurs d'asile pour s'en débarrasser. Donc en fait, le Sahara va devenir la nouvelle Méditerranée très prochainement. C'est absolument terrifiant ce qui se passe. Et ça, c'est l'Union européenne qui a apposé son tampon là-dessus.
Najat Vallaud-Belkacem qui dénonce une réalité absolument terrifiante. Jean-Baptiste Bonnet, vous n'abordez pas directement cette question de la politique migratoire européenne qui se durcit dans le film, mais elle est vraiment là partout. Elle surplombe tout dans ce film.
Oui, l'Europe est la grande absente du film. C'est notre destination géographique, mais en tout cas, l'Europe politique est la grande absente du film. Enfin, elle est présente justement par son absence. Mmh. Elle est présente, l'Europe, quand on rencontre les gardes-côtes libyens et qui nous tirent dessus à la Kalachnikov, puisque ces gardes-côtes libyens sont financés par l'Europe. Ils ont reçu plus de 59 millions d'euros. C'est pas rien, 59 millions d'euros. Pour, comme le disait bien Najat Vallaud-Belkacem, pour contenir ce flux migratoire, je mets tout ça entre guillemets. On voit à quoi sert cet argent. Le bateau avec lequel ils attaquent l'océan Viking est un bateau italien qui leur a été donné. Voilà, elle est là, l'Europe.
Dans cette scène, elle est absolument abominable. On voit que l'océan Viking, l'équipage, réagit assez calmement. J'ai l'impression qu'ils ont l'habitude.
C'est la première fois que ça arrive.
Ah, quand même, c'était la première fois.
Alors, les altercations avec les gardes-côtes libyens sont fréquentes, puisque si les gardes-côtes jouent un peu un jeu pervers en venant perturber les sauvetages tant qu'ils peuvent, en faisant des vagues avec leur bateau.
Les pushbacks aussi.
Voilà, alors c'est ce qui arrive du côté des rescapés, qui sont encore plus violentés par les gardes-côtes. Mais c'est la première fois que les gardes-côtes ouvraient le feu à proximité de l'océan de Viking, et qui plus est dans les eaux internationales.
Est-ce que l'équipage vous a fait part de leurs difficultés grandissantes à accomplir leur mission ?
Non, j'ai pas eu de témoignage en ce sens-là, mais en tout cas, ça veut pas dire que c'est facile. La difficulté est grandissante, notamment à cause du décret Piante Dosi qui a été voté par le gouvernement Meloni et qui rend le sauvetage difficile administrativement et économiquement. On en parlera peut-être plus tard.
On va pas avoir le temps, malheureusement, voilà, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Mais une question que je me posais, c'est est-ce que les réfugiés que vous avez filmés, les rescapés, pardon, avaient conscience de la difficulté de ce qui les attend ?
Je peux pas répondre à cette question. Et en plus, on peut pas dire les réfugiés ou les rescapés, parce que ils sont autant d'individualités que c'est-à-dire que il y a, dans le sauvetage que j'ai filmé, il y avait des jeunes hommes assez jeunes mineurs. Il y avait des adultes beaucoup plus matures, il y avait des gens qui étaient très politisés, d'autres pas du tout. Il y avait des gens qui avaient une vraie connaissance de l'histoire et de la géographie, qui savaient ce qui était SOS Méditerranée, qui savaient placer tous les pays d'Europe sur la carte, d'autres pas du tout. Enfin voilà, c'est très hétérogène.
Et donc vous expliquez que vous êtes en contact avec certains d'entre eux, donc il y en a un qui sera là ce soir, c'est ça ?
Alors Moussoni, non, je ne le connais pas. Il habite en France aujourd'hui, mais il a été rescapé par l'Océan Viking il y a quelques années. Oui.
Et de ceux que vous avez filmés, est-ce que vous avez encore des nouvelles ?
Alors, je n'ai pas gardé de contact continu. J'ai eu quelques nouvelles de certains, notamment certains que vous voyez dans le film. Je sais que certains des mineurs ont pu être accueillis dans des familles d'accueil en Italie qui ont pu être scolarisés. Mais la question de leur asile va se reposer dès qu'ils vont être adultes, ce qui doit être le cas pour certains aujourd'hui.
In fine, ce film, Jean-Baptiste Bonnet, pourquoi vous l'avez fait ?
Ça, c'est une énorme question.
Oui, mais je la pose en dernier.
Voilà, c'est ça. Je l'ai fait pour des raisons intimes. Je dirais que moi, les questions de l'exil ont été très présentes dans mon enfance, dans l'imaginaire de mon enfance. Mon grand-père a quitté la Russie en 1919 et il a passé des années dans un camp de réfugiés en Pologne avant d'arriver en France. Cette histoire, c'est l'histoire de plein de gens qui viennent de familles d'exilés. Et ce qui se passe en Méditerranée centrale est essentiel pour notre époque. Ce qui se passe en Méditerranée centrale raconte énormément de ce que tu es en train de devenir l'Europe.
Est-ce que c'est pas aussi une façon de montrer à tous ceux qui prennent ces décisions, j'allais dire là-haut mais à Bruxelles, leur montrer ce qui se passe vraiment, parce que finalement on ne voit pas ce qui se passe. On récupère les corps, voilà, mais on voit pas.
Si, ils et elles le savent très bien. Moi, j'arrive vraiment après l'information. J'ai pas cet optimisme-là à l'égard de la force de frappe du film. Peut-être qu'il va pouvoir faire un peu bouger des regards. Mais si j'ai le temps, je raconte en une seconde. Pendant un des entraînements, en fait, nous, l'équipage de Sand Viking, on est séparé en deux. Il y a un bout de l'équipage qui est mis dans un canot sans moteur, qui est laissé un petit peu au milieu de l'eau pendant 30 minutes. Et puis, après, il y a un canot qui vient nous sauver. C'est un entraînement en sauvetage. Moi, j'étais dans le canot qui était tout seul au milieu de la mer, en plein soleil, pendant une demi-heure dans la houle. C'est très, très, très inconfortable. On se sent vraiment perdu, alors même que j'étais avec les copains et que j'avais un gilet de sauvetage et que c'était un entraînement, c'était un jeu. Mais ça, c'est une expérience que devraient faire nos hommes et femmes politiques.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Bonnet. Merci d'être venu dans les Midi de Culture. Votre très beau film Save Our Souls sera donc diffusé ce soir et en simultané dans de nombreuses salles de cinéma en France, en Belgique, en Suisse. Toutes ces salles, vous pouvez trouver leur nom sur le site saveoursouls-lefilm.fr. Et nous, on se quitte en écoutant une complainte déchirante mais sublime de Mercedes Sosa, Alfonsina et Elmar.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas.
Les Midi de Culture, c'est fini pour aujourd'hui, mais j'aurais voulu écouter ça très longtemps. Cette émission a été préparée par Zoé Coupé, Lise Ripoche, Tom Hundenstock, Boris Pinou, Oriane Delacroix, Aïssa Tundoy, Louis Cosnard, Zora Vignier. Elle est réalisée par Louise André avec Noé Chaban à la technique.